La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous entamons aujourd'hui un cycle d'émissions sur les grands arrangeurs de jazz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arrangeur ?
C'est celui qui va dire à chaque partie, c'est-à-dire les trompettes, les trombones, les saxos, vous allez jouer ça. Alors, c'est souvent de la musique écrite, bien sûr.
C'est de la partition, mais pas toujours, quand même. C'est vrai. Naturellement, ça s'adresse à ce qu'on appelle les big bands, les grands orchestres. Les grands orchestres qui comportent classiquement 4 trompettes, 3 trombones, 5 sax, 2 altos, 2 ténors à baryton et une section rythmique avec piano, basse et batterie et quelquefois guitare.
Ça fait du monde, hein ?
Si vous comptez bien, ça fait quand même au moins 15 et quelquefois 16. Et puis parfois, il y a 5 trompettes, 4 trombones, vous savez, avec le big band, on ne sait plus où ça s'arrête. Un arrangement, c'est un mot bien modeste pour un portillon qui ouvre sur de grandes choses. En fait, parce que l'arrangeur, c'est ni plus ni moins qu'un compositeur.
Il part de quelque chose de simple, et là, il va en faire quasiment un autre morceau, complexe, nouveau, et chaque fois ça change. C'est ça, un arrangement.
Naturellement, un cycle d'émissions, c'est pas forcément toutes les semaines. Il y aura, de temps en temps, un nouvel épisode du cycle sur les arrangeurs dans nos émissions. Et à chaque fois, nous allons passer à la file plusieurs morceaux du même arrangeur pour que vous soyez plus plongés dans son atmosphère particulière.
Et bien sûr, on va commencer par l'arrangeur des arrangeurs, celui, on peut dire honnêtement, qui est le plus connu, Duke Ellington.
Duke Ellington a passé sa vie à écrire de la musique. On disait que son instrument, c'était pas le piano, parce qu'il est un très bon pianiste, un des meilleurs. C'était son grand orchestre. Et tu sais qu'il entretenait son grand orchestre avec ses droits d'auteur sur 2 ou 3 morceaux qui avaient énormément cartonné sur la planète entière.
C'est-à-dire que s'il avait dû vivre de son grand orchestre, il n'aurait pas pu.
Ah non, impossible.
Entretenir 16 musiciens qui se baladent dans le monde entier, avec les frais que ça comporte, même si on fait des tas de concerts, finalement, c'est pas rentable. Et donc, il avait ce plaisir d'avoir ce merveilleux instrument qui était un grand orchestre, mais ça lui coûtait cher.
Et il faut ajouter que ce grand orchestre était formé de musiciens de tout premier plan, des gens très connus, parfois historiques, et qu'il n'y avait pas dans la troupe d'Ellington que 16 musiciens. Il y avait beaucoup de monde autour. Il y avait les band boys, le manager de route, le manager tout court qui était son employé, contrairement à ce qui se passe d'habitude où c'est les managers qui exploitent les musiciens jusqu'à les presser comme de pauvres citrons.
Oui, mais là, Duke, on le pressait pas comme un citron. C'était
non,
pas
l'homme
à ça, hein ?
Pas du tout. Et il y avait naturellement aussi, quelquefois, un peu de famille autour. Enfin, la tribu Ellington, c'était un vrai petit milieu très particulier. Alors voilà 3 morceaux d'Ellington à la file qui vont illustrer 3 aspects de son art.
On va commencer, bien sûr, par son célébrissime Jungle, Steel Jungle. Vous savez, mais ça, je crois qu'on vous en a déjà parlé. C'était la mode du retour à l'Afrique. Et Duke Ellington en a fait quelque chose d'absolument merveilleux, une sorte d'évocation de l'atmosphère, effectivement, mystérieuse, chaude, violente.
Pleine de cris bizarres.
C'est le style jungle.
Qui n'a finalement pas beaucoup de rapport musical avec l'Afrique, quand on étudie un peu les choses de près. Mais justement, Steel Ellington, pur jus, et c'est ça qui est bien. Et c'était une œuvre de commande au départ pour le fameux Cotton Club. Une œuvre de commande qui a drôlement marché. Dans ce répertoire-là, nous allons extraire un morceau qui s'appelle East St. Louis Toodle O, qui est un des plus célèbres morceaux Jungle Ellington. Et naturellement, comme nous le disions l'autre jour à notre conférence, à laquelle vous étiez, j'espère, il s'agit d'une danse.
Oui, parce que les danses, ça changeait tout le temps. On mettait des choses à la mode, et comme les danseurs étaient des fanas, eh bien, ils apprenaient les nouvelles danses avec un grand bonheur. Alors celle-là, elle est bizarre. Elle s'appelle Toddle, ce qui veut dire se balancer de façon un peu vacillante, comme un bébé qui fait ses premiers pas.
En musette, on l'aurait appelé la vacillante.
Et voilà.
Le deuxième morceau, plus tardif dans le parcours d'Ellington, met en scène essentiellement 2 de ses plus grands solistes à la trompette, Rex Stewart et Cootie Williams. On est à l'époque du fameux Savoy Ballroom dont nous avons parlé à notre conférence de l'autre jour, à laquelle nous espérions que vous étiez vous-même.
Ah là là. Encore.
Et le morceau s'appelle « Two Tins Through the Roof », c'est-à-dire « À faire envoler le toit », quelque chose comme ça. Et alors, les 2 trompettistes en question, ils se livrent à un dialogue assez extraordinaire où chacun reprend au vol la pensée de l'autre.
Ça fait un peu question-réponse.
Il y a de ça, il y a de ça. Et puis après, ils se mettent ensemble pour une phrase à deux voix qui monte très haut et puis là, l'orchestre termine le morceau. C'est un arrangement très réussi, j'aime beaucoup ce morceau. Et pour terminer, nous allons mettre un pied dans la catégorie d'œuvres de Duke qu'il appelait...
Les suites, c'est-à-dire les suites. Duke Ellington, c'est quelqu'un de très cultivé. Il est très, très passionné de Shakespeare. Et là, eh ben, il va parler de Roméo et Juliette, hein, tout le monde connaît.
Duke Ellington avait fait une suite entière sur Shakespeare, qui commençait d'ailleurs par un véritable portrait musical de l'auteur. Et le morceau qui va venir maintenant, qui est joué par Johnny Hodges, qui fait Juliette avec le saxo alto, et Paul Gonsalves, qui fait Roméo avec le saxo ténor. C'est un morceau absolument magnifique, qui est très poétique. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Nous les avons entendu jouer ça, d'ailleurs, à des concerts auxquels nous étions. Et ça s'appelle...
Star-Crossed Lovers.
Et maintenant, eh bien, écoutez, nous vous souhaitons un bon passage dukish. Thank you. Voici maintenant, débutant à la même époque dans un tout autre genre, voici Don Redman. Mais celui-là, on ne l'a pas connu, malheureusement. Il est très peu venu en France et nous étions trop petits.
Eh bien, Don Redman, il a commencé vraiment très très jeune, puisque à 3 ans, il était au piano. Et puis, il est rentré dans un orchestre à 6 ans. Il est devenu aussi trompettiste à 8 ans. Et puis, pour finir, il choisit le saxo alto. C'est-à-dire que c'était vraiment l'homme qui était polyvalent, un musicien merveilleux partout.
Et Don Redman a été, sinon le tout premier, un des tout premiers arrangeurs dans le jazz. Et en particulier, c'est lui qui a fait les premiers grands arrangements de l'orchestre de Fletcher Anderson.
Parce qu'il ne faut pas se tromper, souvent on croit, un peu comme pour Duke Ellington, que c'est forcément le chef d'orchestre qui fait les arrangements.
Que nenni !
Parfois, effectivement, c'est comme Ellington, lui. Mais d'autres fois, c'est 1, 2, 3 arrangeurs qui vont travailler pour un chef d'orchestre.
Et le plus curieux, c'est que Fletcher Anderson lui-même était un excellent arrangeur, mais qu'il a arrangé pour son orchestre beaucoup plus tard. En tout cas, nous voici devant 3 arrangements de Don Redman, que vous allez entendre à la suite, les uns des autres. Le premier, c'est l'époque Fletcher Anderson, justement, et il s'appelle
Hot Mustard, ce qui veut dire aïe aïe aïe.
Oui, la moutarde.
La moutarde qui pique.
La moutarde pique. Ce morceau n'a pas été composé à Dijon, toutefois. Plus tard, après avoir quitté Fletcher Anderson, Don Redman, qui était très demandé, se retrouve directeur musical de l'orchestre des McKinney Cotton Pickers, qui était un orchestre assez étonnant, où les rapports entre le chef, qui n'était pas du tout musicien, monsieur McKinney, gérait l'orchestre. Mais le rapport entre ce monsieur et ses musiciens était plutôt aigre-doux, je dirais.
Oui, il avait une réputation, cet homme-là, d'être franchement rapia. Et les musiciens n'aimaient pas ça. Hein. Alors, il y avait toujours des histoires. Il m'a pas permis ci, il m'a pas permis ça. Tu te rends compte ? Enfin, il n'était pas très populaire.
Ma prime. Bon, bref. Le problème, c'est qu'il avait quand même de bons contrats, de bonnes tournées pendant au moins un certain temps. Alors ça a quand même tenu l'orchestre ensemble pendant un moment. Et Don Redman était un arrangeur extrêmement adaptable. Il a considéré qu'il avait un matériau sonore tout à fait différent d'avec Fletcher Anderson. Et il a fait des arrangements sur mesure pour les McKinney qui sonnent tout à fait différemment. Vous entendrez un de ceux que nous préférons et qui s'appelle
Miss Hannah.
Et puis, troisième morceau, ça vient du moment où Don Redman a fini par avoir son propre big band. Et là, il a fait ce qu'il voulait pour se faire plaisir.
Quand il travaillait pour un orchestre, Don Redman, il était obligé de suivre un peu quand même les directives du chef d'orchestre. Là, étant son propre chef, il va faire une chose qui n'est pas habituelle. Il va donner, pour son plus grand plaisir, la première voix de la section des saxos. Ça va être le saxo soprano, qui chante.
Ah oui, c'est un instrument très chantant, on remarque l'alto aussi, mais ça donne quand même un éventail de sons différents. Et Don Redman, qui tient lui-même naturellement ce fameux soprano, il s'est vraiment régalé à écrire certains passages du morceau que nous allons passer et qui s'appelle
Sweet Sue.
Alors maintenant, vous embarquez avec ce cher Don Redman. Thank you.
Fortunate with bows. Everybody knows Miss Hannah I'm speaking of. Does she have a frown? Say no, she's the talk of all the town. Men all gather round Miss Hannah. Now is she lovely? Boy, I mean, all other girls in town go unseen. Does she have a style? Boy, what a smile. Men would walk a mile for Hannah.
L'arrangeur suivant, il a un parcours un peu atypique, parce qu'il commence par être très pieux, et sa mère rêve qu'il devienne clergyman.
C'est-à-dire pasteur.
Et finalement, il va osciller pendant un temps. Il va se destiner finalement à être un personnage religieux.
Ah oui, il aime bien sa maman quand même.
Et puis finalement, il y a toujours la musique qui le taraude. Allez, hop, il y a un moment il dit, ça y est, ben maintenant je vais devenir musicien. C'est entendu.
Et il a eu raison, l'avenir l'a prouvé, car Benny Carter est une des plus grandes figures de l'histoire du jazz. C'est un personnage d'une importance absolument capitale. Il faut dire que Benny Carter a quelques cousins célèbres dans la musique et que ce choix de vie, il le fait à 17 ans. Il a eu le temps de réfléchir quand même, hein, parce que les vocations de musiciens sont jeunes dans ce milieu-là.
Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, dans le cas donc de Benny Carter, c'est qu'il va suivre pas à pas, quelques années plus tard, le chemin qu'a suivi Don Redman. C'est-à-dire qu'il commence par aller chez Fletcher Anderson.
Où il lui succède, d'ailleurs.
Et puis après, il va au McKinney-Cotton Pickers.
Dont il devient le directeur musical, succédant à Don Redman. Étonnant. Et on va encore les retrouver plus tard au Chocolat Dandies. Mais il y a un bout de rivalité quand même entre eux.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Et des comptes à régler, et ça va se régler dans un club où ils se trouvent nez à nez pour une jam session. Et là, ils attaquent, je crois que c'était Tifourtou. Et Benny Carter dit, bon ben, on change de ton. Là, il fallait quand même un pianiste qui suive. On change de ton toutes les 8 mesures. Alors l'autre, il suit. Et puis, toutes les 4 mesures. L'autre, il suit. Toutes les 2 mesures. Hein, Don Redman commence à pâlir un peu. C'est un tout petit bonhomme un peu dressé sur ses ergots. Il est quand même tempérament du petit chef. T'sais. Et mais ça passe quand même. C'est pas facile hein, de changer de ton. Faut vraiment,
Oui, toutes les 2 mesures, vous rendez compte.
Et à ce moment-là, Benny Carter dit, ben voilà, ça se passe par signe, hein, parce que le morceau continue à jouer. Et Benny lui fait signe qu'on va changer de ton toutes les mesures. Et là, Don Redman a plié et a quitté les lieux, furieux.
Très, très fâché.
Très fâché.
Il a perdu.
il avait perdu. Je ne sais pas s'ils se sont raccommodés après, parce que quelquefois, chez les musiciens...
Il y a des égos, là.
Des choses comme ça, oui, voilà, exactement.
Et puis, ça se passait devant du monde, et ça, c'est un peu plus fâchant aussi.
Et du beau monde. Billy Carter, nous l'avons connu à l'époque où il venait de temps en temps en France. C'était un personnage d'une gentillesse, d'une classe tout à fait exceptionnelle. On va te dire une sorte de gentleman. Puis, à côté de ça, très grand musicien, hein, saxo, alto et trompettiste, et arrangeur, un des plus grands. À côté de ça, il n'a jamais su bien se vendre. Tous les big bands qu'il a montés ont une vie très courte, et c'est bien dommage.
C'était pas un commerçant, finalement.
Non, c'était pas un commerçant. Alors voici, successivement, de son époque, Fletcher Anderson.
Somebody Loves Me.
Alors dans Somebody Loves Me, vous entendrez un vocal de Jimmy Harrison, le trombone, absolument superbe. Mais également, puisqu'on parle d'arrangeur, un traitement de la section de sax, absolument fabuleux. C'est à Benny Carter, on le reconnaît entre mille quand on entend ses arrangements pour les saxos.
Ensuite, vous entendrez Sunday.
Avec son propre big band. Et là, il est en soliste au saxophone alto.
Et puis, le troisième morceau, c'est All Man Time, qui est un morceau de Ray Charles.
Oui, parce que Benny Carter était un arrangeur extrêmement demandé de partout. Nous l'avons vu, nous, à Paris, dans un studio, enregistrer une partie de saxo pour un groupe féminin genre double six qui était piloté par Christiane Legrand. On a vu tout un tas de choses avec Benny Carter. Et bien, il a été demandé par Ray Charles pour faire cet arrangement. Et cet arrangement, il a cette particularité qu'il le suit, il colle au vocal de manière tout à fait étonnante. Voilà, bon voyage avec Benny Carter.
she can be. Somebody loves me, I wish I knew. So she can be what is me. Everyone passes by shout, hey, Amy, you are meant to be my loving, loving, loving Amy. Somebody loves me, I wonder who. Maybe it's you.
Yes, sir. Somebody loves me. And I wonder who. Yes, sir. I wonder who it could be. True. Somebody loves me. And I wished I knew. Just who it could be, it worried me. Yes, ma'am. Everyone passed me by. I shout, hey, maybe. Maybe you were meant to be my loving baby. Baby, baby. Somebody loves me. And I wonder who. Maybe it's you, baby. I don't know. Papa got to see tonight. Oh, my, my, my.
Makes you rich, makes you poor, he's a dog, that's for sure. All your dreams and your schemes ain't worth a dime. So ball it up big every day, cause you'll never get away from that old man, old man time. the bugaboo. Every year he changes you. He bends your back, dims your eyes, and you see less. You quake and shake when he's there, boy, you're a mess. But there is one thing he can't change. Love that's true stays the same. It lives on and on in any clime. So you don't ever have to fret, fall in love and you forget about that old man. I'm talking about that old man, talking about old man time.
Et le dernier de la bande, c'est le plus jeune. Quand on dit plus jeune, c'est peu dire, parce qu'en réalité, entre Ellington et Cy Oliver, il y a 11 ans. Et les autres sont au milieu. Vous voyez que c'est à quelque chose près la même génération.
C'est le dernier de la bande pour aujourd'hui, naturellement. Cy Oliver. Pourquoi Cy? Parce que quand Cy Oliver a été gagné par le démon de la musique et a arrêté tout le reste, il était étudiant en psychologie.
Psychology. C'est l'homme de la psychologie.
Cy Oliver, nous avons eu beaucoup de chance, parce qu'après une carrière américaine absolument extraordinaire, puisque c'est un des arrangeurs les plus réclamés de partout. Je pense que c'est lui qui a fait les arrangements pour le Good Book de
Louis Armstrong.
De Armstrong, et pour son autobiographie, qu'il était l'arrangeur de Jimmy Lunsford, qu'il a fait énormément également de variétés, qu'il était en France quand nous l'avons rencontré parce qu'il arrangeait tout le spectacle de l'époque de Charles Aznavour. Et en fait, c'est un homme qui a littéralement la musique au bout des doigts. On se demande comment ces gens-là fonctionnent quelquefois.
C'est le don de la polyvalence musicale.
Ah oui. Cy Oliver, c'était une très grande intelligence, un regard chaleureux et le regard d'un homme heureux en plus. Alors vraiment heureux, hein. Ça, oui. Aucun doute. On avait rencontré ce jour-là un jazzman heureux.
Content de ce qu'il faisait.
Content de la vie, à moins qu'il pouvait. Quand Cy Oliver a arrêté la psychologie pour se consacrer à la musique et à l'arrangement, mais c'était également un très très bon trompettiste, il avait été recruté par Jimmy Lunsford, chef d'orchestre qui travaillait un peu avec ses élèves. Il était un peu plus âgé et c'était tous des types au départ du même lycée où il était prof. Et cet orchestre a eu un parcours absolument extraordinaire. Et vous entendrez un très bel arrangement de Cy Oliver pour commencer, qui s'appelle
Margie, où vous pourrez entendre aussi une intervention de Trummy Young.
Tromboniste, chanteur, et qui a plus tard été le trombone attitré de Louis Armstrong. Le deuxième morceau sera un morceau du propre big band de Cy Oliver, le morceau où il se fait plaisir, comme tout à l'heure Benny Carter.
Il s'appelle Scotty.
Et c'est dommage, comme pour les big bands de Benny Carter, ce big band-là n'a pas duré très longtemps. Et il a un autre point commun avec, c'est qu'il était formé essentiellement de gens très peu connus, dont on n'a plus jamais entendu parler après, et qu'on ne connaissait pas avant.
Mais qui jouaient parfaitement bien.
Ce qui illustre le fait que Benny Carter et Cy Oliver étaient aussi de très bons chefs d'orchestre, capables de faire donner le meilleur d'eux-mêmes aux gens avec qui ils travaillaient. Puis le troisième morceau est très spécial. Il vient d'un concert, il n'est pas très bien enregistré, vous nous excuserez. Ça vient d'un concert auquel nous avons assisté, quand Cy Oliver est venu en France avec un petit orchestre qui sonnait comme un grand.
Quand même, ce Cy Oliver, c'était un malin. Un grand orchestre, on vous l'a dit, à entretenir, c'est un prix fou. Alors lui, il avait trouvé des musiciens qui pouvaient jouer, par exemple un saxo, pouvaient jouer de tous les saxos possibles. Saxo baryton, saxo soprano, ténor et alto. Et comme ça, il ne prenait que deux musiciens. Suivant la partition, vite, le musicien changeait d'instrument et M. Cy Oliver n'avait à payer que deux saxos.
Oui, il avait aussi deux trombones et deux trompettes. Mais là où il était le plus malin, avec son talent d'arrangeur, c'est qu'il arrivait à combiner tout ça de manière à ce que ça sonne comme un grand orchestre. Parce que quand tu prends deux trompettes et deux altos, ça peut faire une section de quatre. Quand tu prends deux trombones et deux ténors, ça te fait une section de quatre. Et quand tu fais entrer les deux saxo-barytons avec les deux trombones, c'est une autre section de quatre.
Et en combinant tout ça de manière extrêmement musicale et intelligente.
Et subtile, on arrive au son que vous allez entendre, qui est quand même assez sidérant pour un orchestre à six souffleurs seulement. Et là, il s'est amusé à reprendre un de ses arrangements de l'époque, Jimmy Lunsford, qui s'appelle
Four Dancers Only.
Tout un programme, ça dit bien ce que ça veut dire. Le jazz est une musique de danse, perdez pas cette vue. Et voilà, pour terminer, Cy Oliver.
little Margie. I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you, don't forget your promise to me. I have bought a got a house and ring and everything for my whole bubble, Margie. You are my inspiration, dear, that's never blue. After all said, done, baby, you the only one that did it, did it, did it, did it, did it, did it. Oh, Marty, it's you. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.